enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, j'aimerais plus parler de nos devoirs que de nos privilèges. Car voyez-vous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges, mais nous avons également des devoirs. Alors très souvent, nous passons 95% de notre temps à nous occuper de nos privilèges. Ce matin, j'aimerais revenir sur un devoir que nous avons, et mon thème sera simplement un commandement que Jésus nous a donné, aime ton prochain. Aime ton prochain. C'est fou ce que ça vous emballe. Aime ton prochain. Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Je suis sûr que ça doit rassurer votre voisin, votre réaction. Chers amis, vous qui nous regardez, avec nous, j'aimerais vous dire, aime ton prochain, là où tu es, ton voisin de palier, celui peut-être qui a la télévision plus fort que toi pendant que tu regardes l'émission et qui te trouble quelque peu, aime-le quand même. Un maître de la loi avait entendu discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc et lui demanda « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Et voici le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que cela. Tu dois, ce n'est pas une option, ce n'est pas une proposition. Jésus ne fait pas là une proposition qui correspondrait à une éventualité, celle d'aimer notre prochain. Tu dois. Aimer ton prochain, et il précise, comme toi-même. Jésus parlait fréquemment des grands devoirs humains que nous avons. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce que je me rends compte, c'est que très souvent, nous devenons tellement spirituels que nous perdons pied. Certains vivent dans une espèce de bulle dans laquelle ils ont oublié qu'ils vivent dans un monde et une société par rapport à laquelle ils ont quelque chose de concret à faire. Il y a des croyants qui sont devenus tellement spirituels qu'ils sont constamment dans leur dirigeable, très haut au-dessus de la terre, comme si les problèmes de la terre et de leur prochain ne les concernaient plus. Et de temps en temps, si nous sommes de bons pasteurs, il nous faut tirer dans le dirigeable pour qu'ils retrouvent le plancher des vaches. On spiritualise tout. On a un langage tellement spirituel que cela nous déconnecte de la réalité. Et c'est grave. Lorsque le voisin a faim, c'est parce qu'il y a des démons de pauvreté. Alors pour lui aider, on va lutter contre les démons de pauvreté. Moi j'aimerais te dire, pour lui aider, ça serait bien que tu ouvres ta bourse, que tu lui achètes de quoi manger, que tu lui donnes. On spiritualise. Et puis on s'éloigne de ce à quoi Jésus nous a appelés. Regardez ce que Paul dit. La repentance c'est quoi? C'est un changement de comportement. On change de comportement et cela doit se traduire dans tous les domaines de notre vie. L'apôtre Paul dira dans le livre des Actes, « Mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et aux membres des autres nations. » Écoutez bien ce qu'il leur a dit. « Je les ai appelés à changer de comportement, à se tourner vers Dieu, et maintenant c'est important, et à montrer par des actes la réalité de ce changement. » Et ça, c'est parfois ce qu'il me semble manquer au sein du peuple de Dieu. Montrer par des actes la réalité de ce changement. Très souvent, nous disons, je suis né de nouveau, amen. J'ai changé de comportement, amen. Mais où est et où sont les actes qui accompagnent le changement opéré par Dieu en nous? Pose-toi la question, depuis que je suis au Seigneur, qu'est-ce qui a changé? Concrètement, En quoi ai-je progressé en particulier ce matin par rapport à mon thème à l'égard de mon prochain? En quoi ai-je progressé? Que fais-je de plus qu'avant? Que fais-je de différent qu'avant? Si la différence n'est que le fait que tu viennes à la mission du plein évangile, jamais te dire, il y a un problème. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit évoluer, j'aimerais le voir avec vous ce matin. À quoi me sert une spiritualité au travers de laquelle mon prochain n'est pas béni? À quoi sert-il à mon prochain s'il dit qu'il a faim d'entendre, « Eh bien, je vais prier pour que le Seigneur te donne, alors que je peux lui donner, je ne le fais pas. » Frères, sœurs, l'armée du salut a une devise. Vous connaissez tous la devise de l'armée du salut. La devise de l'armée du salut, c'était sur les épaules, deux S, un à côté de l'autre, qui signifiait, non pas comme on a voulu nous le laisser croire, soupe et savon, mais sauver pour servir. Sauver pour servir. Je suis pas seulement sauvé pour être sauvé, je suis pas seulement sauvé pour pouvoir dire je suis sauvé, J'ai été sauvé par Jésus, mais pour servir. Il faut que ça amène quelque chose de plus dans ma vie, et quelque chose de plus non seulement pour moi, mais également pour les autres. Alors, aimer notre prochain, je vous l'ai dit, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Jésus l'ordonne. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. En premier lieu, c'est Dieu que je vais aimer et je vais l'aimer plus que moi-même. Il va avoir la première place dans ma vie. Mais cette première place doit se traduire à l'égard de mon prochain par des changements. Souvent, j'entends dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, « Moi, j'aime Dieu. » « Oh, moi, j'aime Dieu. » Qui n'a jamais dit ça? Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur. Oh, mon cœur lui appartient. Seigneur, que je suis heureux de t'appartenir. Qu'est-ce que j'aime le Seigneur? Combien de fois chantons-nous? Oh, comme j'aime Jésus. Oh. Et alors, c'est joli, hein? Oum papa, oum papa, oum papa, oum papa. Et surtout pour les Alsaciens, ils aiment ce rythme. Oum papa, oum. Eh, hoi, teram, teram, teram. Ça, c'est dans l'église. Alors sur un joli rythme de valse comme celui-là, c'est agréable. Mais je vais te dire ce que Jésus te dit et ce qu'il me dit, parce que je m'inclus pleinement. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme, dit Jésus, je vous aime. Et continue. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus te rappelle ce matin, Patrick, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Yeah. Ça vous passionne ou ça vous effraie? Louis! Je n'ai pas l'air de le sang, ça échoue, amen. Ça, c'est la foi. Tu es son ami si tu fais ce qu'il te commande. C'est facile de dire j'aime Dieu que tu ne vois pas. Le Seigneur Jésus lui dit, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Et ce qu'il te commande, c'est d'aimer ton prochain. À quelque part, quand je dis « j'aime Dieu », cette parole n'est vérité qu'à partir du moment où elle se traduit sur le terrain à l'égard de mon prochain. Amen. Tant qu'elle n'est pas suivie d'actes, elle est vide de sens. Il faut qu'à un moment donné, ce « j'aime Dieu » se concrétise, se traduise par des actes sur le terrain. Sinon, n'importe qui peut dire « j'aime Dieu ». N'importe qui. Mais lorsqu'il s'agit de concrétiser cet amour, là, ça change. Lorsqu'il s'agit, et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai vécu chez nous à la maison. Peut-être ce matin, dites-vous, mais je ne dis rien de mal sur lui. Ou bien encore, je ne nuis pas à sa réputation, j'essaye même d'être poli avec lui. Écoutez bien, le commandement n'est pas négatif, c'est-à-dire que le commandement ne te dit pas tout ce que tu ne dois pas faire. Le commandement te dit ce que tu dois faire, il est positif. Le commandement te dit ce que tu dois faire, aime-le, et par conséquence, tu ne feras pas le reste. Ça, c'est une conséquence. Aime-le, aime-le. Alors certains diront, oui mais frère, de temps en temps, je donne même au feu rouge, je donne un euro. Tu crois que ça prouve que tu l'aimes? Vous savez, on peut donner un euro comme on peut donner un os à un chien, sans aimer la personne. Ça ne veut rien dire. Au contraire, je vais vous montrer jusqu'à quel point parfois on est tordu. On donne un euro, vous savez pourquoi? Pas parce qu'on l'aime, parce qu'on calme notre propre conscience. C'est même pas pour lui, c'est encore une fois pour nous. Certains se disent, ce matin, il a bu du vinaigre. J'ai pas bu du vinaigre. Je reviens à l'écriture et j'aime me dire, si on n'est pas capable de faire les choses simples, comment Dieu voudra-t-il nous conduire plus loin? Alors, quelle est la mesure de notre amour? Quelle mesure employer? Moi, je vais vous dire, Jésus va employer la mesure la plus forte. La plus forte que nous connaissions. Écoutez bien ce qu'il dit. Et ça, c'est la mesure. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la mesure. Ça, c'est la mesure. Comme tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain. Avez-vous remarqué que Jésus, très souvent, nous ramène à nous-mêmes? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Souvent. Là, il prend la mesure la plus élevée de ce que nous pouvons connaître, comme toi-même. Lorsque dans le Notre Père, il nous enseigne à pardonner, comment nous enseigne-t-il? Il nous dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Encore une fois, il nous implique pleinement. Lorsqu'il parle, eh bien, des mesures qu'il nous donne, écoutez bien ce qu'il est dit. J'aimerais le lire avec vous. Dans Luc 6, 38, Jésus dit, donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée débordante. Écoutez, Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Hello. Amen. Il y en a qui sont tout d'un coup riches. Peut-être que d'autres sont tout d'un coup pauvres. Avec la mesure dont tu mesures, Dieu te dit, je vais moi te mesurer. Et ce n'est que justice finalement. Un jour nous arriverons dans le royaume de Dieu, Dieu nous rendra selon nos œuvres. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Est-ce que quand vous semez dans le jardin, vous espérez moissonner plus que ce que vous avez semé? Oui. Un grain emporte 100, un autre 60. Ça faisait longtemps, mais on a mis des pieds de tomates. Tu as mis des pieds de tomates. Ouais. Elle a mis des pieds de tomates. Que je arrose. Et maintenant, je commence à voir des tomates de tous les côtés. Et je me réjouis. Hormis que mes fils jouent au basket à côté, de temps en temps, il y a des tomates qui disparaissent étrangement. Mais il a fallu à un moment donné planter. Planter. Si nous n'avions pas planté, les tomates ne poussent pas après les grillages. Il a fallu investir. Il a fallu faire quelque chose. Et maintenant, nous allons récolter. Malheureusement, je pars 15 jours en vacances. C'est le papa Jean qui va se prendre toutes mes tomates. Mais il n'empêche que je me réjouis de ce que lui est béni au travers de nos tomates. Amen. Mais il a fallu faire. Frère, sœur, si tu n'agis pas, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Et voilà la mesure. Comme tu t'aimes, tu es appelé à aimer. Alors, je sais, certains m'ont dit, frère, moi je m'aime pas. Mais moi je m'aime pas. Moi je vais vous dire, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui réellement ne s'aime pas. Je crois que j'en ai presque jamais rencontré. Pourtant j'en ai vu du monde. Il y a une différence entre ne pas s'aimer et ne pas s'accepter. Souvent, on ne s'accepte pas parce qu'on s'aime de trop. Et parce qu'on s'aime tellement, on voudrait être quelqu'un de différent qui corresponde plus à nos ambitions. Alors, résultat, on ne s'accepte pas. En règle générale, même quand les gens me disent « j'aurais voulu un autre corps, j'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela », dans quel objectif le font-ils ? Dans l'objectif d'être heureux, n'est-ce pas ? Et c'est très bien de vouloir être heureux, c'est juste d'être heureux, mais ça prouve que vous vous aimez suffisamment pour avoir envie d'être heureux. Même quand vous estimez que votre situation, le contexte dans lequel vous êtes, ou votre éducation, je ne sais quoi encore, fait obstacle à ce bonheur. Si quelqu'un vraiment ne s'aime pas, il n'a même pas envie d'être heureux. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que rencontré des gens qui, malgré tout ce qu'ils pouvaient dire sur eux, au fond d'eux-mêmes, voulaient être heureux. Donc ils s'aiment, et ça Jésus le sait. Et Jésus sait que quand il donne cette mesure-là, tout le monde est capable d'aimer son prochain. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui est exempt. Il n'y en a pas un qui échappe à cela. Tout le monde. Tout le monde. Frère, soyons honnêtes envers nous-mêmes. En général, il n'est pas nécessaire de nous exhorter à nous aimer. Voyez tous les efforts que nous faisons. Les efforts physiques, les régimes, pour être plus belle ou plus beau. Le sport, les frères. Voyez tous les efforts que nous faisons pour être bien dans notre peau. On s'aime pas mal. Voyons ensuite tous les efforts que nous faisons pour avoir un confort suffisamment agréable pour notre petite personne. On en fait. Ne me dites pas que vous n'en faites pas. Nos maisons, notre voiture, ceci, cela. Regardez le temps que nous prenons pour nous-mêmes. Regardez le temps que nous investissons pour notre santé. Regardez le temps que nous investissons pour nos loisirs. Qu'est-ce qu'on ne fait pas tout pour nos loisirs ? Ah frère, tu sais, non, ce soir, je ne peux pas aller visiter quelqu'un. J'ai mon cours de golf. C'est important pour moi, ça me détend. Dieu n'est pas contre le fait que tu aimes mettre une petite balle blanche dans un petit trou. C'est pas un problème. Mais si le petit trou et la petite balle prennent la place de ton prochain, il y a un problème. Si nous aimions réellement notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, la planète serait déjà révolutionnée. La planète serait révolutionnée. Si tous les efforts que nous faisons pour nous-mêmes... Moi j'observe, hein. Tous les soins qu'on s'apporte, le temps qu'on peut passer à faire les ongles, dans la voiture, pour se faire belle, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'observe dans les voitures, moi j'aime ça, je regarde, quand j'ai une dame à côté de moi en particulier, je... Et puis souvent elles ont encore la bouche, elles font... Alors quand elles voient que vous la regardez, tout d'un coup elles deviennent rouges. Quand elles mettent du ricil, vous avez déjà remarqué qu'elles mettent du ricil ? Je sais pas pourquoi ils font toujours comme ça. Ça doit faire mal, moi je me dis ça doit faire mal hein, qu'elles se pincent les lèvres comme ça. T'en fais pas qu'on s'aime. Jésus te dit maintenant, comme ça, tu vas aimer l'autre. C'est-à-dire tu vas t'investir pour lui, tu vas te donner pour lui. Tu vas faire tout ce que tu peux pour lui comme tu le fais pour toi-même. L'amour est une puissance. L'amour est une puissance. Mais Jésus savait très bien qu'il fallait orienter cette puissance. Écoutez bien. Si l'amour n'est orienté que vers nous et pour nous, elle nous mène à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à la jalousie et à l'orgueil. Réfléchissez bien. Si cette puissance qu'est l'amour n'est que dirigée vers vous, elle va vous emmener à vous séparer des autres. Si au contraire elle est dirigée vers les autres, elle va construire, elle va bénir. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, tu vas l'aimer, mais comme tu t'aimes toi-même. Maintenant, évidemment, aimer l'autre, c'est faire tout ce que je voudrais qu'il fasse pour moi, le faire pour lui. C'est le considérer comme j'aimerais qu'on me considère. C'est tout ça, je pourrais continuer. Cependant, aimer mon prochain, c'est l'accepter tel qu'il est. Hello, vous réjouissez d'accepter l'autre tel qu'il est ? Vous m'acceptez bien tel que je suis, vous n'avez pas le choix d'ailleurs. Acceptez l'autre tel qu'il est. Le problème quand on vient à l'église, surtout les premières fois, on idéalise les gens, on les idéalise. Quand on rentre là-dedans, on se dit, ils sont tous merveilleux. Oh, ils sont tous gentils. Oh, mais vraiment, ils doivent tous avoir de l'amour. Vous savez, dernièrement, j'avais un mariage et j'ai lu un texte lors de ce mariage. J'aimerais vous le relire. Dans le mariage aussi, avant le mariage, c'est souvent le conte de fées dans nos têtes, vous ne trouvez pas? C'est beau le mariage, moi je me réjouis pour le mariage. Mais dans notre tête, c'est parfois le conte de fées, vous ne trouvez pas? Oh, c'est la princesse. C'est le carrosse. Après le mariage, c'est la citrouille. Mais bon, avant, c'est le carrosse. Non, on idéalise. On se fait un idéal sur l'homme, la femme. On se dit... Est-ce que il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus? Un jour, j'entendais cela. Je me suis dit, tiens, ça, je vais vous le communiquer. L'attente de l'homme, de la femme pour le conjoint idéal. Voudriez le connaître? L'attente de la femme, on va commencer par mesdames, mes sœurs, je commence par vous. Ce que vous attendez. L'homme idéal. Chers amis téléspectatrices, vous, c'est la même chose. L'homme idéal tient des conversations brillantes. Il est fort, mais sensible. Offrant une grande sécurité matérielle, mais en étant toujours à la maison. Ses activités préférées, selon elle, laver la vaisselle, faire la lessive et le repassage, passer l'aspirateur et enlever la poussière. S'occuper des enfants le détend. Faire les devoirs avec eux tout en parlant continuellement de ses sentiments les plus profonds est son plaisir. Il a la sensibilité de Francis Cabrel. La cabane au bout du chemin, le visage d'un jeune Alain Delon et la spiritualité de Billy Graham. Oui, je vois les sœurs, vous vous demandez s'il existe à quelque part. Il est banquier, instituteur, amoureux, pédagogue, orienteur, philanthrope, chef d'entreprise et héros. Ça, c'est les attentes. Mais voilà la réalité. Il rentre du travail et s'installe devant la télévision pour regarder le match de foot. Il n'aime pas parler de sa journée, met ses chaussettes dans le linge en boule, ne vide pas les poches de ses pantalons et n'ouvre pas le col de ses chemises. Il ne range pas ses chaussures et laisse traîner ses affaires dans toute la maison. Après le repas en guise de merci, c'est un « oh ». Un lit pas fait pendant plusieurs jours et une chambre non aérée ne le dérange pas. La maison nettoyée, il ne la remarque pas. Il lui laisse à sa femme savoir qu'elle n'a que deux grands défauts, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, en précisant qu'elle ressemble chaque jour un peu plus à sa mère. N'est-ce pas, mesdames? On est proche de ce que vous rêvez, mais la réalité... est autre. La femme idéale pour l'homme. Mes frères, fermez vos yeux, rêvez. Je vais vous aider un moment. La femme idéale est toujours joyeuse, pleine de bonne humeur. Elle aurait pu marier les plus grandes vedettes du monde, mais elle ne voulait que moi. Elle a des cheveux magnifiques qui n'ont jamais besoin de bigoudis ni de frais de coiffeur. Ah, j'ai une pleine adhésion là. Elle n'est jamais malade, seulement allergique aux bijoux et aux fourrures, aux fleurs et aux restaurants. Elle insiste que déménager les meubles lourds elle-même est excellent pour sa ligne. Elle est experte en cuisine, en réparation d'appareils ménagers, en jardinage et elle est pleinement heureuse que lorsqu'elle est silencieuse. Ses activités favorites sont de regarder le sport à la télé, couper le gazon, entretenir le jardin et s'occuper des enfants. Elle a horreur d'utiliser la carte de crédit. Et son expression favorite est « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle souhaite que son mari puisse aller ailleurs, faire ce qu'il veut, car quelques minutes de son temps suffisent pour la combler. Les frères, vous pouvez ouvrir les yeux, voilà la réalité. Elle parle à 144 mots à la minute avec des vents de pointe de 200 km/h. Elle est une cuisinière spéciale offrant régulièrement des offrandes de fumée à l'Éternel. Elle lui laisse savoir qu'elle n'a que deux grands défauts, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Et ça, le lendemain du mariage, tu le découvres. Et puis, tu as promis que tu te mariais pour le meilleur et pour le plus difficile. Et tu vas apprendre. Et tu vas apprendre à changer, tu vas apprendre à aimer, tu vas apprendre à recevoir et tu vas apprendre à voir différemment. Lorsque nous venons dans l'église, c'est souvent la même chose. Nous les idéalisons, les chrétiens. Ils ont l'air tous de s'aimer, ils ont l'air tous d'être des gens prêts à rendre service, et puis tout d'un coup on les découvre sous leur angle réel. Et alors là, que disons-nous ? Je suis déçu, je ne ferai plus confiance, pourtant je pensais qu'ils étaient tous parfaits à la mission. C'est pas mieux que dans le monde, si c'est comme ça, je laisse tout. Nous avons souvent oublié que nous sommes nous-mêmes imparfaits, et nous attendons des autres ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire. Jésus, lui, nous dit d'aimer notre prochain et de l'aimer, quelle que soit sa condition, qu'il se parfume avec Chanel ou qu'il sente des pieds. Il te dit de l'aimer. Écoute ce qui est dit dans Luc 14. Moi j'aimerais vous laisser ce verset à cœur. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour, et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite-les aux pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles, tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. » Que Dieu soit béni pour la famille dans laquelle j'étais élevé en tant qu'enfant. J'ai vécu cela. J'ai vu celui qui ne pouvait pas nous le rendre venir à la maison. Certains sont restés longtemps avec nous à la maison. Un grand-papa qu'on nous avait apporté pour 15 jours est resté 5 ans avec nous. Il ne pouvait pas nous le rendre, non. Mais quelle joie! Parce qu'en tant qu'enfant, nous-mêmes, nous avions le désir de répéter ces choses. Et très jeune, on avait le réflexe de mon père. Je vous l'avais déjà dit, un jour deux grands-mères arrivent, mais épuisées, elles venaient d'Allemagne, et j'étais seul avec mon frère Daniel. Je sais pas, on avait 8 et 10 ans. Et elles arrivent, j'ouvre, elle me dit, « Bruder Peter Schmidt ist da hier ?» Et je dis, « Nicht hier, nicht là. Ah, wir sind müde. Ah, müde. Schlafen. » Et la grand-maman dit, « Ja, müde. » Alors, avec mon frère, on a pris une décision. Comme on les a accueillis, on leur a donné un lit, et elles se sont couchées, elles ont dormi. Quand papa et maman sont rentrés au milieu de la nuit, ils se sont mis en pyjama, sont allés dans leur chambre à coucher pour dormir. Quelle joie, il y avait deux grands-mères dans leur lit. Ils ont fini la nuit sur le canapé. Vous croyez qu'ils m'ont fait un reproche le lendemain en disant « Mais tu te rends compte ? Maintenant, ça va sentir l'eau de Cologne pendant 15 jours dans mes draps ?» Rien. Ils m'ont dit « C'est bien. Il faudra s'organiser autrement la prochaine fois. » Nous ont encouragés. Un jour, un clochard est venu, il dit « Vous voyez, je suis sale, j'ai pas de problème. Mon père, il a un rasoir. » Je lui ai donné le rasoir de papa, électrique et tout. Lui m'a encouragé, juste maman qui m'a dit « Tu te rends compte ? S'il y avait des petites bêtes et qu'elles sont dans le rasoir maintenant, bon ?» Frère, sœur, recevoir, accueillir, ouvrir ta porte, aimer ton prochain. Sans t'attendre à quoi que ce soit en retour. Si tu t'attends à des retours, tu seras déçu. T'attends pas à des retours. Au plus, au mieux, parfois les retours, c'est un revers. Ça fait rien, tu le fais pour Jésus. Tu le fais à cause de Jésus. Aimer son prochain, c'est se réjouir de ses qualités. Regardez ce que Paul dit. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Les dons que j'ai reçus, je ne les ai pas reçus pour moi-même. Je les ai encore moins reçus pour manipuler les autres. Ou je ne les ai pas reçus pour m'élever au-dessus des autres. Les dons que j'ai reçus, je les ai reçus pour les mettre à la disposition des autres. Les dons que tu as reçus, mon frère, ma sœur, tu les as pas reçus pour toi, tu les as reçus pour les autres. Es-tu doué? Alors mets tes dons à disposition des autres, bien sûr, dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Vous savez, celui qui est doué en mécanique, en général, il sait qu'il est aimé par beaucoup de gens. Hein? Là aussi, chacun doit être libre de pouvoir dire « Non, je ne peux pas le faire. J'ai trop de travail, je dois prendre du temps pour ma famille, etc. » Mais si nous avons des dons, ce n'est pas pour dominer les autres, c'est pour les servir. Amen. Moi, j'ai besoin de tes dons. Et toi, tu as besoin des dons que j'ai. Nous avons besoin des dons les uns des autres pour aller de l'avant. Sans voir dans notre frère, eh bien, quelqu'un qui nous ferait de l'ombre. Dans notre sœur, quelqu'un qui nous ferait de l'ombre, mais quelqu'un qui me fait progresser. Aimer son prochain, c'est toujours lui dire la vérité. Alors n'oubliez pas que toute vérité qui va être dite doit être dite par amour et avec amour. Parfois j'entends cette réflexion. Eh ben, je l'ai vu le frère. Hein? Je l'ai vu et je lui ai dit les quatre vérités. Ma question, après que tu lui aies dit les quatre vérités, dans quel état est-il? Parce que si nous lui disons les quatre vérités et que l'autre reste à moitié mort avec nos quatre vérités plantées dans le cœur, il me semble alors que nous n'avons pas fait l'œuvre du Seigneur. Remarquez, quand Jésus disait la vérité, il le disait avec beaucoup de tact. À la femme adultère, lorsque les pharisiens sont venus, les docteurs de la loi, lorsqu'ils voulaient la lapider, lorsqu'ils disaient eux les pharisiens, criez une vérité, elle est adultère, selon la loi de Moïse, elle doit mourir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a dit, lui, leur vérité. Mais comment leur a-t-il dit? Il s'est penché à terre et il a écrit dans le sable. Vous savez pourquoi? Parce qu'à tout moment, il pouvait l'effacer sans que personne ne voie ce que c'était. Et moi, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Ce n'est pas écrit ce qu'il a écrit. Personne ne sait. Mais moi, j'imagine le grand rabbi qui est là, Moshe, il lui écrit simplement dans le sable, Moshe, cette femme elle est adultère, mais qu'est-ce que t'as fait toi l'autre nuit pendant la panne de courant avec ta voisine? Du coup Moshe il a vu ça. Arrive le prochain, Salomon. Salomon, elle est adultère. Je sais. Mais toi, pendant que ta femme est au travail avec la femme de ménage, c'est quoi ce jogging particulier? Ils sont partis. Les uns après les autres. Jésus ne les a pas décriés, il leur a dit leur vérité. Mais sans les détruire. Frères, sœurs, face à la Samaritaine, elle avait eu 5 maris, nous dit l'Écriture, et celui qu'elle avait n'était pas le sien. Vous avez vu avec quel amour il va lui dire? Il lui dit simplement, cherche ton mari. Ah ben, j'ai pas de mari. Et là, très gentiment, il lui dit, t'as raison. T'as raison de dire que t'as pas de mari parce que t'en as eu 5 et celui que tu as, c'est pas le tien. Il ne l'a pas abordé au bord du puits en lui disant, espèce de pécheresse, toi qui as eu 5 maris. Jamais. C'est toujours avec amour qu'il dira la vérité. Ô jeune homme riche, est-ce que aimer veut dire être faible? Non, non, non. Souvent, on nous a présenté un espèce d'amour mielleux et mou. Est-ce qu'aimer, c'est être faible? Jésus était rempli d'amour, mais ferme. Au jeune homme riche, il lui dit, la vérité, vends tous tes biens, viens et suis-moi. Le jeune homme, nous dit l'Écriture, s'est détourné et est parti triste. Jésus ne lui a pas couru après en disant « j'ai été trop dur ». Non, non, il savait qu'il lui avait dit, il savait qu'il lui a dit sa vérité, celle dont il avait besoin. Aimer l'autre, ce n'est pas être faible. Aimer l'autre, ce n'est pas ne pas avoir de colonne vertébrale, mais aimer l'autre, c'est être prêt à faire pour lui tout ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. C'est avoir l'attitude à son égard que je voudrais qu'il ait à mon égard. Si vous aviez péché, voudriez-vous que l'on colporte partout votre péché? Je ne pense pas. Alors, appliquons-nous, nous aussi, quand nous apprenons quelque chose, à ne pas colporter de mauvaises nouvelles, mais à couvrir la faute de notre frère en le ramenant dans la vérité. Nous pourrions continuer ce matin, mais le temps est passé. J'ai d'autres points encore. Si seulement nous étions en mesure de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Souvent les gens me disent, frère, vous savez, il y a ça que je ne comprends pas dans la Bible, ça que je ne comprends pas dans la Bible, ça que je ne comprends pas. Mon frère, ma sœur, t'inquiète pas pour tout ce que tu ne comprends pas. Fais-toi plutôt du souci pour tout ce que tu as compris et que tu ne fais pas encore. Fermons nos yeux. Pendant que nous avons nos yeux fermés, je voudrais simplement conclure. Gardez vos yeux fermés, concentrez-vous sur les quelques phrases que je veux dire là. Les motifs pour obéir à ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point 1, le plus puissant motif, tu dois l'aimer car Dieu te le commande. Le deuxième, aimer notre prochain, c'est dans notre propre intérêt. Mon frère, ma sœur, le plus court chemin pour arriver au bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Veux-tu être heureux? Cherche le bonheur des autres. Quand tu verras le bonheur des autres, tu seras heureux. Ma plus grande joie, et je peux le témoigner de tout cœur, ma plus grande joie, c'est de voir mes frères, mes sœurs heureux et heureuses. C'est de les voir réussir, avoir du succès dans ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est ma joie. C'est de les voir s'épanouir et grandir dans le Seigneur. C'est ma joie. C'est de les voir être pardonnés, guéris. C'est ma joie. C'est de les voir sortir de leurs difficultés. C'est ma joie. Note-toi cela dans ton cœur. Le plus court chemin pour arriver au bonheur est de rendre les autres heureux. Aime le prochain, parce que c'est le seul moyen de faire du bien dans le monde. C'est le seul, note-toi cela, le seul moyen de faire du bien. Tu t'intéresses peut-être aux œuvres de bienfaisance, les orphelinats, les hôpitaux, tout cela est bien, mais n'égalera, mon frère, ma sœur, jamais ton propre investissement. Un quatrième point, pourquoi dois-je l'aimer? Aime ton prochain, car en l'aimant, tu diminues sa souffrance. Aime ton prochain, parce que Jésus t'aime. En conclusion, face à ce message, le constat que j'ai pu faire pour ma propre vie, c'est que je suis pécheur devant ce commandement et peut-être que nous le sommes tous. Qui de nous ne se sent pas condamné dans sa conscience? La Bible dit que chaque fois que je peux faire le bien, je ne le fais pas, j'ai péché. Qui, ce matin, pourrait dire, j'ai toujours fait le bien qui était en mon pouvoir à l'égard de mon prochain? J'aimerais vous laisser avec un texte. Si j'ai transgressé le commandement de notre texte, et je l'ai fait, si d'un autre côté je ne puis entrer au ciel sans y avoir obéi, alors précieux à mon âme est ce Sauveur plein d'amour qui peut laver tous mes péchés dans son sang. Cher à mon cœur, celui qui veut bien me pardonner mon manque de charité, mon peu de dévouement, ma rudesse peut-être, mon égoïsme. Jeter un voile sur toutes mes paroles acerbes, sur mes médisances, sur mon étroitesse, sur ma dureté, et qui, malgré tous mes péchés, me donnera enfin une place dans le ciel grâce à son sacrifice expiatoire. Aimons notre Sauveur. Sa présence dans nos vies nous donnera la force d'aimer notre semblable, de l'aimer à la mesure qu'il nous demande, c'est-à-dire de l'aimer lui comme nous-mêmes. Tu es là, Seigneur, ce matin. Et nous te remercions parce que, oui, nous savons que nous avons péché face à ce commandement. Seigneur, il n'y en a pas un, et j'en suis le premier, qui n'est pas coupable face à ce commandement. Mais ce que je veux te dire de tout cœur, je veux que ça change. Je veux aller de l'avant, de progrès en progrès. Seigneur, tu me dis pas seulement de lui faire du bien, tu me dis de l'aimer. Alors je veux l'aimer, m'investir en lui. Que sa souffrance devienne ma souffrance. Que sa détresse, je puisse y prendre part. Que sa joie soit ma joie. Que ses rires soient mes rires. Que je puisse me réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.